Accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Будь мені кимось, будь мені, як тільки не звуть тебе, як я, моя.
Bonjour, 16 226 enfants enlevés de force et déportés d'Ukraine vers la Russie. Le chiffre avancé par Kiev donne le vertige. Alors que la Cour pénale internationale accuse le président russe Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits des enfants Maria Lvova-Belova d'avoir organisé ces rapts, un mandat d'arrêt a été émis contre eux. Depuis des mois, des milliers de familles ukrainiennes tentent de récupérer ces enfants. Mais la tâche est extrêmement compliquée, comme a pu le constater notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz.
Lors de l'invasion russe de février dernier, Oksana Lebedenko, originaire de Vovchansk dans la région de Kharkiv, décide de devenir infirmière de combat. Veuve depuis plusieurs années, elle élève seule Yeva, sa fille de 12 ans, qu'elle confie à ses parents lorsqu'elle part sur la ligne de front. En septembre, Oksana est grièvement blessée à la tête lors d'un tir de mortier à Bakhmout. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital quelques jours plus tard, c'est le début d'un cauchemar. Elle réalise que Yeva a disparu.
Lorsque j'ai enfin pu joindre ma mère, j'ai appris que mon propre frère avait emmené ma fille en Russie. J'ai immédiatement déposé plainte. Je savais que si je n'essayais pas de résoudre ça au niveau officiel, je ne récupérerais jamais Yeva toute seule. Je suis dans l'armée, jamais je n'aurais pu me rendre en Russie et mon frère ne m'aurait pas rendu Yeva de son propre gré.
Lors de l'occupation de la région de Kharkiv, le frère d'Oksana a pris un passeport russe. Lorsque la région est libérée en septembre dernier, ayant choisi son camp, il s'enfuit en Russie et emmène sa nièce avec lui, contre son gré. Pour Oksana et sa fille, ce sont des mois d'angoisse qui commencent alors. Elles ne sont autorisées à communiquer que rarement et brièvement au téléphone.
Ma fille voulait vraiment revenir à la maison. En Ukraine, elle voulait me retrouver, moi, sa mère. Elle ne voulait pas rester en Russie. Elle y a été scolarisée et bien traitée, mais elle disait tout le temps « Maman, je veux rentrer ».
La communication avec son frère est difficile. Les rares moments passés au téléphone avec sa fille encore plus. Afin de récupérer Yeva, Oksana se tourne vers l'ONG Save Ukraine qui négocie les retours et envoie des convois récupérer les enfants en Russie. Ces opérations sont longues et difficiles, comme l'explique Mihailo Kuleba, le directeur de l'ONG.
Après la libération de nos territoires dans les régions de Kherson, de Kharkiv, nous avons rencontré des mères qui nous ont dit « Nous n'avons plus nos enfants parce que les Russes nous les ont pris ». Nous avons secouru près de 50 enfants en Russie et plus de 120 dans les territoires occupés. Ces localités sont tout près de l'Ukraine, mais nous ne pouvons pas aller en territoire occupé via la frontière ukrainienne. C'est interdit. La Russie n'autorise pas les familles à s'y rendre. C'est pourquoi nous devons traverser la Pologne, la Biélorussie, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie et ensuite la Russie, puis la Crimée et enfin les territoires occupés, des milliers de kilomètres.
Grâce à l'ONG Save Ukraine qui a négocié avec les autorités russes et a dépêché des convois de rapatriement, Oksana et Yeva ont été réunies en décembre. Depuis, elles essayent de rattraper le temps perdu et ne se quittent plus. Mais tous n'ont pas eu cette chance. La majorité des familles affectées par ces déportations est toujours dans l'attente du retour de leurs enfants, par manque de moyens et devant le refus de l'administration russe de traiter leurs demandes. D'après Kiev, 16 226 enfants seraient toujours retenus en Russie sans leurs parents.
Un centre de crise qui gère et coordonne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'aide humanitaire européenne aux pays touchés par une catastrophe. Oui, c'est possible et ça se passe à Bruxelles. Créée en 2001, cette structure de l'UE veut assurer une réponse rapide à des besoins urgents. La plateforme sert d'interlocuteur unique pour coordonner l'aide entre les 27 États membres et 8 autres pays non membres qui sont aussi participants. Depuis un an, ce centre de coordination de la réaction d'urgence européenne, l'ERCC, c'est son nom, est donc en première ligne pour acheminer l'aide humanitaire et matérielle à l'Ukraine, mais pas seulement. À l'occasion du forum humanitaire qui se déroule actuellement à Bruxelles, Jean-Jacques Herry a pu visiter ce centre de coordination pour nous.
L'open space est silencieux et studieux. Cachés derrière deux, parfois trois écrans d'ordinateur, les opérateurs présents mènent leur conversation à voix basse.
Ok, I understand. Yes. Thank you very much.
Au mur, des écrans affichent des cartes du monde, tremblements de terre en Turquie et Syrie, incendies au Chili. Toutes les interventions récentes du centre de coordination y sont répertoriées. L'un des écrans attire un peu plus le regard que les autres. On y reconnaît les contours de l'Ukraine. Sur la carte arrive en temps réel, en rouge sur l'écran, des informations à propos de la situation sur le terrain, ainsi que sur l'aide européenne apportée à Kiev depuis maintenant plus d'un an. L'Ukraine a en effet demandé le déclenchement du mécanisme de protection civile de l'Union européenne dès le 15 février 2022. C'était seulement une semaine avant l'invasion russe, se souvient Balazs-Ujvari, porte-parole de la Commission européenne pour la gestion de crise et l'aide humanitaire.
Ça concernait principalement des médicaments et des dispositifs médicaux. Jusqu'ici, à travers le mécanisme, on a acheminé 85 000 tonnes d'assistance à l'Ukraine. Ça inclut des abris, mais aussi du matériel sanitaire. C'est la plus grande crise qu'on gère à travers le mécanisme. Tous les 27 États membres contribuent. C'est la première fois que tous les États membres participent dans un tel effort.
Le but du centre de coordination, c'est l'efficacité et la rapidité. Le processus est rodé. Le gouvernement ukrainien fait régulièrement part de ses besoins à ses interlocuteurs du centre, qui les répercute ensuite aux États membres, raconte Antoine Lemasson, chef d'unité en charge du centre de crise.
On reçoit cette demande, on la partage avec les États membres et donc les États membres font ensuite des offres. Et comme c'est un système d'État-État, on doit s'assurer que les Ukrainiens acceptent ce qui est proposé. Ça peut être des camions de pompiers, ça peut être de la nourriture, ça peut être des vêtements. Mais on veut s'assurer que ça sera bien réceptionné du côté ukrainien et que ça correspond aux besoins. Évidemment, ça paraît lent comme ça, mais ça peut aller très très vite. Tout ce qui est tente, tout ce qui est abri temporaire, ça peut aller très vite. On parle d'une semaine, deux semaines, etc.
La logistique et le transport des biens vers l'Ukraine est alors confié aux États qui ont répondu à la demande, l'Union européenne prenant en charge 75% des coûts de transport. Depuis le début de l'hiver, note-t-on au centre de coordination, les besoins ukrainiens ont changé, notamment parce que la Russie détruit les installations énergétiques du pays.
Ces derniers temps, on s'est focalisé plutôt sur les générateurs d'électricité, mais aussi sur des abris. Jusqu'ici, on a mobilisé presque 3000 générateurs d'électricité pour l'Ukraine, mais aussi 3000 unités de logements d'urgence, mais aussi 45 000 lits, en fait.
Et transporter un générateur électrique, en termes de logistique, c'est plus compliqué que de livrer des tentes, souligne Antoine Lemasson. Cette guerre est un défi qui oblige le centre de coordination à mettre en œuvre de nouvelles façons de travailler.
Quand vous envoyez des transformateurs, ça peut prendre beaucoup plus de temps. On a eu une opération vraiment très grosse, ça a été la plus lourde, la plus complexe. Elle a mis un mois et demi pour partir de Lituanie, pour ensuite passer par la Roumanie pour aller jusqu'en Ukraine, parce que c'était un très très gros transformateur. Et dans le cadre très spécifique de l'Ukraine, on a créé des centres, si vous voulez, dans trois pays, notamment la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie, où on peut mettre toute l'assistance qui est envoyée par les États européens ensemble et l'envoyer de ces différents entrepôts vers l'Ukraine.
Et puis, plus globalement, c'est toute une façon d'agir et d'interagir qui change, à la fois avec les États membres et avec l'État demandeur d'aide, l'Ukraine en l'occurrence, car cette crise ukrainienne est une crise qui va durer.
Le mécanisme a été originellement conçu pour répondre à des désastres naturels. La première réponse, bon, on vient de voir ce qui s'est passé en Turquie, en Syrie, et là, on a effectivement répondu, les États membres ont répondu, mais si vous voulez, je pense que les équipes de recherche et de reconnaissance sont déjà parties, il y a encore des biens matériels qui sont envoyés, mais je dirais que d'ici mi-avril, le mécanisme sera beaucoup moins présent en Turquie et en Syrie. En Ukraine, c'est un conflit qui dure, c'est presque nouveau pour nous. On n'est même pas habitué à intervenir dans des zones de conflit. On n'a pas non plus d'équipe sur le terrain. Et donc la difficulté, c'est un peu de gérer les centaines d'opérations logistiques qui sont en train d'avoir lieu. Il y a eu une expansion de notre travail et la difficulté pour nous, c'est de suivre ce rythme, en fait.
Parallèlement, le centre de coordination gère également un volet médical. Depuis le début de la guerre, il a permis l'évacuation de 2000 patients ukrainiens malades ou blessés vers des hôpitaux européens. L'état des installations hospitalières en Ukraine ne leur permettait plus de bénéficier sur place des soins nécessaires.
Premières victimes de la guerre, les enfants sont souvent les grands oubliés ensuite des récits de ces conflits. Depuis 6 ans à Sarajevo, un musée unique en son genre donne la parole à des enfants qui ont vécu et vivent le quotidien et les tragédies de la guerre en Bosnie, en Syrie, en Irak, mais aussi en Ukraine. Car depuis l'invasion russe, les échanges entre ce musée à Sarajevo et Kiev se sont multipliés. Le reportage de Louis Seyé.
Des peluches, une balançoire, des vêtements, un vélo ou même un bidon d'eau. Dans un petit musée de Sarajevo, des objets en tout genre racontent le quotidien de la guerre à hauteur d'enfant. Jasminko Halilovic avait 4 ans quand la guerre de Bosnie a commencé. Il est le fondateur de ce musée unique en son genre.
Quand j'étais enfant, je suis resté à Sarajevo tout le temps de la guerre. Et après la guerre en Bosnie, il y avait des centaines de projets autour du conflit, mais très peu d'entre eux traitaient de l'expérience des enfants. Donc j'ai voulu créer une plateforme qui ne traiterait pas de l'expérience individuelle, mais de l'expérience collective.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'escalade de l'horreur à Sarajevo, un obus de fort calibre est tombé ce matin sur le principal marché de cette ville à une heure de grande affluence. Le dernier bilan fait état de 61
morts. 30 ans après, on estime qu'entre 6 et 11 000 enfants auraient perdu la vie durant la guerre de Bosnie. À Sarajevo, ils ont été des milliers à avoir été blessés par les balles des snipers et plus d'un enfant sur deux a assisté à une mort violente durant les 4 ans du siège de la capitale bosnienne. Pour ne pas oublier, le musée de l'enfance en temps de guerre accueille régulièrement les élèves de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Mais pour Zerina Smajovic, une guide de 24 ans, les objets exposés racontent autre chose que les souffrances et le tragique des conflits armés.
Le musée parle de la force des enfants pendant la guerre, de leur espoir et de leur créativité, de leur persévérance et de leur force. Avec ces histoires, on essaye d'inspirer la jeunesse d'aujourd'hui. À différentes périodes de leur vie et dans différentes situations, ces enfants ont dû trouver de l'espace pour eux-mêmes, pour se divertir et être toujours créatifs.
Le musée de Sarajevo compte aujourd'hui plus de 5000 objets, surtout venus d'ex-Yougoslavie, qui s'exposent régulièrement à l'étranger lors d'expositions temporaires. Ces objets racontent aussi d'autres conflits de la planète, comme ce porte-clés coloré donné par une jeune Syrienne, ou encore cet ours en peluche. Son propriétaire est un jeune Ukrainien qui a perdu plusieurs doigts à la suite d'une explosion dans le Donbass. Basée à Kiev, Svitlana Osipchuk est la partenaire ukrainienne du musée de Sarajevo.
Les Bosniens sont sûrement le peuple en Europe qui peut nous comprendre le mieux en ce moment, nous les Ukrainiens, car nous partageons le même type d'expérience, que ce soit en termes de politique, mais aussi de vie quotidienne en temps de guerre. Je le vois ici, comment la ville de Sarajevo est marquée par la guerre. Tous ces impacts de balles sur les murs, c'est maintenant quelque chose de très familier à chaque Ukrainien, malheureusement.
Selon l'UNICEF, plus de 400 enfants ukrainiens auraient été tués depuis le 24 février dernier, et il serait aujourd'hui 1,5 million à être exposés à des problèmes de santé mentale. Des risques de dépression, d'anxiété et de stress post-traumatique que l'équipe du musée de Sarajevo tente de prévenir. Grâce à l'expérience et à l'aide financière du musée, Svitlana a organisé plusieurs dizaines de formations en Ukraine afin d'apporter de précieux conseils aux adultes.
Les parents, les enseignants ou même les journalistes nous demandaient comment ils devaient parler de la guerre avec les enfants. Comment faire pour ne pas les traumatiser encore plus et faire en sorte de diminuer leur traumatisme psychologique ? Parce que quand vous pouvez créer un espace sûr pour les enfants afin de refléter ce qu'il se passe, ils auront plus de chances de pouvoir affronter leur traumatisme lié à la guerre dans le futur.
Un an à peine après sa création, le musée de l'enfance en temps de guerre de Sarajevo a reçu le prestigieux prix du musée européen de l'année 2018, décerné par le Conseil de l'Europe. Une récompense qui a permis à son équipe de chercheurs de multiplier ses partenariats à l'étranger, et notamment avec l'Ukraine. 3 semaines avant le début de l'invasion russe, des jouets venus de Bosnie et de Crimée étaient exposés à Kherson dans le cadre d'une exposition temporaire. Jasminko Halilovic.
L'Ukraine est très proche de la Bosnie-Herzégovine, autant géographiquement qu'en termes d'expérience vécue. Nous sommes à la limite de l'Union européenne et ce sont des pays avec un niveau de développement similaire. Donc dès l'ouverture du musée de Sarajevo en 2017, nous voulions coopérer avec quelqu'un en Ukraine. Et nous avons eu de la chance, grâce au soutien de nos donateurs, qu'une opportunité se présente en 2020 pour ouvrir un bureau à Kiev.
Très actif dans le soutien aux Ukrainiens, le musée de l'enfance en temps de guerre de Sarajevo espère bien poursuivre ses projets à Kiev avec l'ouverture d'un espace d'exposition dans la capitale ukrainienne une fois le conflit terminé.
c'est l'histoire d'un autre musée et d'un saccage, celui du musée des Beaux-Arts de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Après avoir envahi cette ville en mars 2022, les forces russes ont littéralement pillé ce musée d'art. Plus de 10 000 œuvres ont été volées par les occupants dans ce qui constituait l'une des plus riches collections d'Ukraine. La conservatrice en chef du musée a vu, impuissante, les chefs-d'œuvre partir sous ses yeux pendant ses 8 mois d'occupation. Son portrait signé Anastasia Bekiov.
Dans la réserve du musée, au milieu de hautes rangées de panneaux grillagés entièrement vides, Anna Skripka a l'air un peu orpheline. Lorsque les Russes ont envahi Kherson en mars 2022, cette ancienne enseignante d'histoire de 51 ans avait pris son poste de conservatrice en chef depuis seulement quelques mois et continuait à se familiariser avec cette collection. Dans ce sanctuaire de métal gris, il ne reste plus que des feuilles de carton blanche avec un bref descriptif des œuvres suspendues par une ficelle sur chaque rangée.
Les peintures étaient accrochées sur ces grilles des deux côtés. Ici, dans cette partie, c'était de la peinture d'Europe occidentale. Il y avait des œuvres de peintres anglais, allemands, hollandais, des 16e et 17e siècles. Ce sont bien sûr ces tableaux qui ont été les toutes premières proies des conquérants russes.
Pendant l'été, les forces d'occupation ont imposé une nouvelle directrice du musée. Anna a décidé de rester avec l'aval des autorités ukrainiennes, souligne-t-elle, pour être auprès de sa collection, voir ce qu'ils en faisaient. Mais lorsque les Russes annoncent une évacuation générale vers la rive gauche du Dniepr, elle est priée de ne plus venir travailler. Deux fois par jour, elle fait le tour de l'établissement pour essayer de comprendre ce qu'il s'y trame. Puis elle est de nouveau convoquée au musée le 1er novembre.
Lorsque je suis arrivée au travail, il y avait un tas de gens dans le musée. En plus des agents de sécurité, il y avait aussi deux Tchétchènes armés. La directrice m'a dit que le ministère russe de la Culture avait envoyé ces personnes pour contrôler le processus de déménagement. À ce moment-là, j'ai voulu faire marche arrière, repartir pour ne pas participer à cela. Mais on m'a fait comprendre que ça n'était pas possible, je n'avais plus le choix. On m'a demandé de dire où se trouvaient les œuvres les plus précieuses. Ils m'ont aussi conduite devant le coffre-fort et m'ont dit « ouvre-le, on sait ce qu'il contient ». Il faut dire qu'on avait des traîtres à l'intérieur du musée, ce qui leur a facilité la tâche.
Contrainte et forcée, Anna Skripka s'installe à son ordinateur pour consigner l'évacuation. Jamais seule, elle n'a pas pu garder de copie de l'inventaire, mais se souvient d'un chiffre, les Russes ont emporté 10 400 pièces.
Pour moi, c'est un peu comme si cette collection était mon âme et qu'avec chaque tableau qui était emporté, il dépeçait mon âme, morceau par morceau.
À la hâte, sans prendre de précautions, des dizaines de personnes chargent une multitude de peintures, gravures, dessins, icônes précieuses dans des véhicules. Anna assiste impuissante à ce balai, avec le sentiment de voir disparaître la culture de sa ville dont l'histoire remonte bien au-delà du XVIIIe siècle lorsque le prince Potemkin, le favori de Catherine II, avait fondé une colonie de peuplement russe.
Ça met justement en lumière ce caractère des Russes qui veulent s'approprier quelque chose qui ne leur appartient pas et qui réécrivent l'histoire au point de la transformer complètement. Ces terres ont été habitées par les Scythes et par des Cosaques ukrainiens. Dire que tout a commencé avec le prince Potemkin, c'est déformer l'histoire. Ils veulent nous priver des dernières preuves de notre propre histoire, de sorte que nous ne puissions pas dire que nous sommes un peuple distinct, une famille différente qui a son propre passé, qui à un moment, certes, s'est imbriqué avec celui de la Russie.
Le musée a saisi les tribunaux internationaux. Plusieurs enquêtes pour vol ont été ouvertes. Dans son sous-sol, Anna Skripka travaille à recenser les quelques 2500 œuvres restantes et à les mettre en lieu sûr. À l'extérieur, les déflagrations incessantes rappellent qu'aucun bâtiment de Kherson n'est à l'abri des tirs.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr ou notre podcast sur vos plateformes d'écoute pour tout savoir de l'actualité européenne. À demain.